Vous écoutez RTL.
Première radio de France. RTL.
Ensemble sous la même bannière. Unis dans un même geste. Prêts à le suivre jusque dans la guerre, jusque dans la folie.
La curiosité est un vilain défaut.
Lui, leur guide, leur fureur.
Jusqu'à 22h.
Peu de noms résonnent avec autant de force dans l'histoire contemporaine comme celui d'Adolf Hitler.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'ascension d'Adolf Hitler, c'est le thème de notre curiosité et du nouveau numéro du Figaro Histoire en partenariat avec RTL. Bonsoir Geoffroy Caillet.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Très bien.
On est heureux de vous retrouver dans notre studio. Vous êtes rédacteur en chef de ce magazine. Je vous propose de commencer par la fin, ce jour ou plutôt cette nuit où Hitler a pris définitivement le pouvoir. Nous sommes le 30 juin 1934. La nuit des longs couteaux va bientôt commencer. Avant de la raconter, il faut peut-être poser le décor. Qui sont les protagonistes? Hitler est au pouvoir depuis un an, mais il craint le pouvoir des SA, les sections d'assaut. Qui les commande? C'est quoi ces sections d'assaut?
Alors, les sections d'assaut, c'est une de ces ligues paramilitaires qui existent dans l'Allemagne du début des années 20, qui sont des résidus de l'armée en partie et des gens prêts à faire le coup de main pour aider à la lutte contre les spartakistes, les communistes allemands qui agitent la République de Weimar. Et le NSDAP, le parti nazi, le parti national qui va devenir celui d'Adolf Hitler, se dote d'une section qui s'appelle l'ESA en 1921. Hitler en confie le commandement à Ernst Röhm. Et Röhm rapidement voudrait faire de l'ASA une force à part, autonome, entièrement militaire. Et il prend de plus en plus d'importance comme ça, ce qui évidemment inquiète Hitler.
Ça veut dire qu'il pourrait mobiliser potentiellement, parce qu'Hitler à ce moment-là, il vient de prendre le pouvoir, il est déjà dans une forme de parano, il croit à un complot. Combien d'hommes Röhm pourrait mobiliser contre Hitler?
En 1934, l'ASA est arrivée à 2,5 millions d'effectifs, ce qui est considérable. Alors, c'est pas des gens qui ne font que SA comme métier, hein. Ils ont un métier à côté où ils sont chômeurs, c'est souvent la pègre des bas quartiers, c'est des gens qui cumulent deux fonctions, ce qui explique cet effectif très important, mais il est d'autant plus considérable que 10 ans plus tôt, en 1925, il n'y avait que 25 000 SA. Mmh.
Alors Hitler va persuader l'armée et la police que les SA préparent un complot. Est-ce que c'est vrai, ils préparent un complot?
Non, c'est faux, on n'a pas de traces de complot. En revanche, la nuit des longs couteaux, c'est un drame à deux faces, on ne connaît que la face SA, mais Hitler a aussi envie de se débarrasser des forces conservatrices d'Allemagne, notamment le chancelier von Papen, qui le gêne. Et il va mettre dans le même sac les SA par la même occasion, d'autant que les SA prennent de plus en plus d'importance. Depuis qu'Hitler est chancelier d'Allemagne, il pille des quartiers, ils embêtent les bourgeois, les juifs, les ouvriers, même des diplomates. Ça inquiète le président Hindenburg.
Qu'est-ce qui se passe dans cette nuit des longs couteaux, le 30 juin 1934?
Alors Hitler finalement intervient, même si Röhm est son grand camarade, et il débarque à l'aube à Bad Wiessee, qui est une station où Ernst Röhm est en cure. Mmh. Il le surprend à l'aube avec son amant au lit, avec une dizaine d'autres SA qui sont dans les parages. Ils sont tous coffrés, emmenés à Munich, et puis fusillés l'après-midi. Et Röhm, lui, est fusillé le lendemain. Hitler lui laisse le choix de se suicider. Il renonce à ce privilège ou ce qui est présenté comme tel. Et il s'écroule en criant « Mein Führer, Mein Führer ». Et voilà, c'est la fin d'Ernst Röhm, qui a été le compagnon de lutte d'Hitler, mais qui est devenu une gêne pour lui dans l'idée d'accéder vraiment au pouvoir suprême.
Ouais, et quelques semaines plus tard, Hitler aura vraiment le pouvoir absolu après la mort du maréchal Hindenburg. Et pourtant, Geoffroy Caillet, si on remonte le temps jusqu'en 1909, qui trouve-t-on parmi les vagabonds, les sans-abri de Vienne?
Eh bien, un certain Autrichien qui s'appelle Adolf Hitler. Il a 20 ans en 1909. Son père est mort quelques années plus tôt, en 1903. Sa mère, qu'il adorait, en 1907. Il n'a plus d'argent. Il a quitté l'école tôt, à 16 ans. Et il se retrouve complètement désœuvré. Il erre à Vienne.
Il n'a pas de travail. Il n'a pas fait d'études.
Il n'a pas de travail. Et même si c'était, en tout cas en primaire, un élève relativement doué, il n'a pas d'aptitude pour un travail suivi, une scolarité appliquée. Et en revanche, il se pense artiste et frappe à la porte de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Premier concours en 1907, il échoue. Second concours en 1908, il échoue à nouveau.
Il va quand même peindre et tenter de vendre ses tableaux. Qui va les acheter?
Alors, il peint, et de fait, il peint à la fois des aquarelles et des petits tableaux en format carte postale, qui vend d'ailleurs comme carte postale. Et alors, les cartes postales, n'importe qui peut en acheter dans la rue, mais les tableaux un peu plus importants, ce sont des marchands juifs. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'à cette époque, on est encore loin de l'antisémitisme paranoïaque qu'il va bientôt développer. Mais Hitler, commerce avec des juifs. En même temps, il est un peu interloqué par la composition cosmopolite de l'Autriche-Hongrie, parce qu'il y a des Allemands germanophones comme lui, mais il y a aussi des Juifs, des Polonais, des Tchèques, et il trouve que le Reichstag, le Parlement qui réunit toutes ces minorités, ressemble à une sorte de moulin à vent. Il commence à en concevoir vraiment une haine pour le parlementarisme.
Geoffroy Caillet, dans ce Figaro Histoire en partenariat avec RTL, vous racontez cet épisode peu glorieux de 1913 qui a été ensuite soigneusement gommé évidemment par le Troisième Reich. Que se passe-t-il cette année-là pour Hitler?
Alors cette année-là, c'est l'année normalement son service militaire autrichien, et Hitler déserte. Et un peu plus tard, il se fait réformer. Alors effectivement, l'épisode est peu glorieux, mais il se rattrape de façon assez inattendue, simplement parce que la Première Guerre mondiale éclate.
Et là, il va être volontaire, il va aller sur le front.
Exactement. Là, en août 14, pour le coup, il s'engage, mais en revanche, pas en Autriche, dans l'armée bavaroise qu'il admire beaucoup. Sa germanité s'est vraiment réveillée en Autriche. Et il est envoyé comme ordonnance à l'état-major.
C'est quoi?
C'est-à-dire qu'il fait le lien entre les différentes unités allemandes sur le front.
C'est dangereux, ça.
C'est très dangereux. Il remplit le rôle d'estafette à pied. Et donc, il doit ramper en permanence ou courir en se tenant courbé. Il faut reconnaître qu'il est extrêmement valeureux puisqu'il il gagne la croix de fer dans ces opérations-là. Il est même blessé, intoxiqué au gaz moutarde. Donc voilà, il fait l'expérience de la valeur militaire, et il est certain que l'expérience de la guerre va être fondatrice pour lui à partir de ce moment.
Mais la défaite de l'Allemagne va nourrir l'antisémitisme d'Hitler et d'ailleurs d'une partie de l'opinion allemande. On vous raconte pourquoi dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL, première radio de France.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est l'ascension d'un démon que l'on vous raconte dans La Curiosité. On découvre comment Hitler a pris le pouvoir en Allemagne avec Geoffroy Caillet, rédacteur en chef du Figaro Histoire, qui consacre son numéro d'avril et mai à ce thème. C'est en partenariat avec RTL. Alors on est avec vous pendant la Première Guerre mondiale. Hitler sent, comme beaucoup d'Allemands d'ailleurs, que son pays va perdre, et tout le monde évidemment cherche un bouc émissaire. Ça va être les Juifs. Que dit la rumeur ?
La rumeur, elle enfle au milieu de la guerre, mais elle se nourrit d'un facteur plus ancien, qui est un antisémitisme prégnant en Allemagne depuis le 19e siècle. C'est pas un antisémitisme religieux, mais vraiment biologique. Les Juifs commencent à être considérés comme un corps étranger qu'il faudrait expulser. Et au milieu de la guerre, des rumeurs enflent selon lesquelles les Juifs allemands ne rempliraient pas leurs devoirs patriotiques. Ils seraient moins nombreux à se battre, à être tués au front. L'état-major allemand engage donc une enquête qui prouve très simplement que absolument pas, les effectifs sont les mêmes chez les Juifs et chez tous les autres Allemands.
Oui, parce qu'il y a un recensement.
Même nombre de morts, c'est ça, pardon.
Même nombre de morts, même si on veut aller jusque là, même nombre de décorations pour actes de bravoure. Il n'y a pas de couardise caractérisée des Allemands juifs pendant la Première Guerre mondiale.
Il sera publié ce recensement, cette enquête?
Non, ce rapport qui est finalement assez explosif parce que il va à l'encontre de la pensée de certains. Et garder secret, mais malgré tout, les rumeurs, ou peut-être à cause de ça, les rumeurs précisément vont continuer, et très rapidement, deux antisémitismes vont se fondre en un seul. Un antisémitisme de droite qui considère que définitivement les Juifs ne sont pas patriotes, même sans preuve, et un antisémitisme de gauche qui considère que les Juifs sont souvent des financiers, donc des marchands de canons, et que donc, dans tous les cas, quelle que soit l'issue de la guerre, ils tireront leur épingle du jeu.
Alors le traité de Versailles va préparer le terrain à l'ascension de l'extrême droite, et donc Hitler en Allemagne. Pour quelle raison le traité de Versailles va pousser à ça?
En réalité, le problème, il est avant le traité de Versailles. Le vrai problème de l'Allemagne sur laquelle Hitler va prospérer, c'est l'Allemagne de l'armistice. Le 9 novembre 18, le Kaiser Guillaume II abdique. L'armistice est signé le 11. La République de Weimar s'installe dans la foulée. Mais la République de Weimar est tiraillée depuis le départ entre une aile d'extra-gauche, les spartakistes, et une aile d'extra-droite. Et c'est sur ce terreau qu'Hitler va prospérer. Très rapidement, on a mis en cause le traité de Versailles. Mais le traité de Versailles vient plus tard, en juin 1919, 1939. Il est évident qu'il est traumatisant pour l'Allemagne.
Oui.
Il est humiliant. Simplement, il faut surtout voir que c'est l'application ou la non-application du traité qui est réellement la cause du terreau dans lequel Hitler va se nourrir. Par exemple, oui. On exige des réparations en milliards de marques or qui correspondent à des destructions en France, en Belgique, dans tous les pays qui ont subi l'occupation allemande. Et deux plans anglo-saxons vont les espacer en 24 et en 29. Parce que l'Angleterre ne veut pas que la France prenne l'hégémonie en Europe. Autre exemple, on a réduit l'armée allemande à 100 000 hommes. En réalité, pendant toutes les années 20, la République de Weimar va remilitariser secrètement et ça donnera à la fin les mouvements militaires d'Hitler dans les années 30, la remilitarisation de la Rhénanie en 36 par exemple.
Il y a aussi cette théorie du coup de poignard dans le dos. C'était quoi cette
Alors,
idée?
Le coup de poignard dans le dos, c'est une légende qui est répandue par les milieux militaires après 1918, après l'armistice, qui consiste à dire « Regardez, l'Allemagne, l'armée allemande est rentrée glorieuse ». Or, on a signé l'armistice, notre pays n'a jamais été envahi, c'est impossible que l'armée ait fait ça tout seul, ce sont les civils qui ont obligé les militaires à signer la paix. En réalité, c'est tout à fait l'inverse. Ce sont les militaires et qui savaient l'armée allemande exsangue qui ont demandé aux civils d'aller signer la paix en leur nom le 11 novembre. Mmh. Et en échange, ils offraient leur appui à la République de Weimar pour mater les mouvements spartakistes.
Et c'est à cette époque que le caporal Hitler va entrer en politique. Dans quel parti, Geoffroy Caillé?
Alors, Hitler, il commence par rentrer dans un petit parti qui s'appelle le Parti des Travailleurs Allemands, qui est un des nombreux très petits partis qui existent dans cette République de Weimar, qui est ultranationaliste, très violent, qui emploie beaucoup d'hommes de main, dont justement les SA. Et il arrive en 1919. Hein, dans Mein Kampf, il dit qu'il il y circule dès 1918, dès l'armistice. Il se sera engagé le lendemain de l'armistice. Mmh. En fait, c'est beaucoup plus tard, en 1919.
Il a attendu un petit peu. Et ses talents d'orateur vont s'exprimer assez vite?
Oui, il devient rapidement l'orateur attitré du parti parce qu'il s'exprime très bien. Alors il a le défaut de parler souvent en long monologue, en long soliloque, mais il impressionne énormément. Et il va prendre le pouvoir
au sein de ce parti. Comment, c'est une sorte de premier putsch d'une certaine façon,
oui.
Comment fait-il?
En réalité, en 1920, il demande l'abolition du traité de Versailles au sein du parti. Il demande qu'on réserve l'exclusivité de la citoyenneté allemande aux Allemands qui sont vraiment nés de sang allemand. Et quand le parti pense se réformer, pense fusionner avec d'autres micro-partis de façon à gagner en importance, Hitler refuse catégoriquement et menace de partir. À ce moment-là, on lui offre la présidence du parti. On est en juillet 1921. Dans la foulée, il va fonder les SA avec Röhm pour assurer la longévité de son parti.
Donc c'est un premier marchepied, on va dire, vers le pouvoir. Et puis il y a le contexte, c'était important de donner le contexte politique. Il y a aussi le contexte économique. L'Allemagne souffre énormément au début des années 20.
Oui, l'Allemagne souffre, mais elle souffre pour une raison assez précise à partir de 1923, c'est que cessant de verser les réparations, en partie parce qu'elle ne peut pas, et sans doute en partie parce qu'elle traîne les pieds, la France et la Belgique occupent la Ruhr au mois de janvier.
Alors la Ruhr, c'est le cœur économique,
oui,
de l'Allemagne.
Oui, c'est le cœur économique sidérurgique de l'Allemagne. À ce moment-là, le gouvernement de Weimar ordonne une résistance passive, c'est-à-dire on va arrêter la production de façon à résister aux Français et aux Belges qui viennent chercher leur dû. Et c'est le début de la crise, puisque plus rien ne tourne en Allemagne, le chômage s'installe, la production s'effondre, et plusieurs États se mettent à ne plus reconnaître même le gouvernement de Berlin, et la Bavière fait partie de ces États. Ce qui est absolument dramatique, c'est que la pauvreté s'installe à tous les rayons, dans toutes les rues de Berlin et les grandes villes d'Allemagne.
Et puis on parle d'hyperinflation, ça veut dire quoi? Par exemple, un dollar va aller jusqu'à valoir combien de marques?
Un dollar, c'est 1 million de marques à partir de fin 1923, et pour acheter un œuf, pour vous donner une idée, il faut dépenser 80 milliards de marques. C'est quelque chose d'absolument délirant. Et alors, ce qui est surtout tout à fait délirant, c'est qu'en parallèle de cette hyperinflation, il faut regarder les chiffres des effectifs du parti nazi, le NSDAP. Mmh. Il avait quelques centaines de membres en 1921. Il passe à 35 000 membres dans les années qui suivent le début de la crise. C'est-à-dire que le NSDAP devient le baromètre de la crise qui s'installe dans l'Allemagne de Weimar.
Donc la voie est ouverte et le 8 novembre 1923, Hitler va tenter de prendre le pouvoir par les armes. Et comment? Où et comment?
Alors, je vous disais qu'en janvier, la Ruhr était occupée, résistance passive. En septembre, le gouvernement, voyant que cette technique a des résultats catastrophiques pour l'Allemagne, décide d'arrêter la résistance passive. Hitler se dit que ça n'est pas possible et que c'est le bon moment pour profiter d'une déstabilisation du gouvernement et de tenter un putsch. Et précisément à Munich, en Bavière, le chef local, le commissaire von Kahr, tient une réunion publique avec toutes les personnalités de la ville dans une brasserie à bière. Hitler s'introduit dans cette brasserie, persuadé que von Kahr va le suivre. Sur le moment, von Kahr fait mine de le suivre, mais le lendemain, il fait volte-face. Une grande manifestation de rue regroupe Hitler et les SA, mais la police leur tire dessus, c'est-à-dire que la police ne les suit pas, contrairement aux attentes d'Hitler, et c'est la débandade. Hitler est légèrement blessé et deux jours après, il est emprisonné.
Arrêté le 11 novembre 23, c'est en prison qu'il va écrire son livre-programme Mein Kampf et changer de stratégie. Il prendra le pouvoir légalement.
Vous écoutez RTL.
RTL. Combien l'Allemagne d'aujourd'hui est formidable. Lorsque je vous vois, je sais que mon existence n'est pas vaine. Vous serez fidèles comme seuls les Allemands le sont. Une nouvelle jeunesse viendra et se lèvera encore et encore.
La curiosité est un vilain défaut.
Je n'ai aucune peur. Je ne suis là que pour vous préparer.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Comment Hitler a-t-il pris le pouvoir dans une Allemagne affaiblie par l'armistice, le traité de Versailles ou la crise économique de 1929? C'est ce que l'on va découvrir maintenant grâce au Figaro Histoire qui publie un numéro édifiant sur ce thème. C'est en partenariat avec RTL. Geoffroy Caillet, vous êtes donc le rédacteur en chef du Figaro Histoire. Juste avant les infos, on a laissé Hitler en prison après son putsch manqué. Où est-il emprisonné et que fait-il de ses journées?
Alors Hitler est emprisonné après un jugement en fait très clément, 5 ans de prison qui vont être amenés à 9 mois en réalité, et le jugement d'ailleurs, le prétoire lui sert même de tribune pour déclamer sa haine contre la République de Weimar. Il est emprisonné donc à la prison de Landsberg, dans la ville de Landsberg, et il passe des journées très agréables finalement parce que c'est une prison où il peut recevoir des amis, recevoir des cadeaux même, surtout il se met à écrire, à écouter de la musique.
Il se met à écrire Mein Kampf. Il écrit seul?
Non, il écrit pas seul. Il écrit de fait Mein Kampf pendant toute sa captivité, ouais. Mais il dicte à Rudolf Hess, son secrétaire, et quelques autres, les notes qui lui viennent en tête. Il avait l'idée d'abord d'appeler son livre 4 années de combat contre le mensonge, la sottise et la lâcheté. C'est un peu long, c'est pas très vendeur. Et en 1926, quand Mein Kampf sera publié, son éditeur lui conseillera de changer de titre.
Change de stratégie aussi. Il s'est rendu compte que prendre le pouvoir par la force, ça n'avait pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'il décide ?
De fait, son séjour en prison va correspondre à l'année du changement vraiment de politique d'Hitler. Les armes ne servent à rien, on va donc essayer avec la démocratie. Et pour commencer, on écrit justement un livre pour exprimer, même de façon extrêmement confuse, une ébauche de programme.
Petite parenthèse, Mein Kampf a été réédité l'an dernier en Allemagne. Il va être dans une version évidemment commentée et critiquée, c'est important. Il doit paraître en France aussi, bientôt.
Oui, il sortira l'année prochaine en France. Et le traducteur disait encore récemment que la langue d'Hitler ou de celles qui ont essayé d'employer, de remettre en forme sa bouillie verbale, était absolument abominable et que ça lui avait donné beaucoup de mal.
Quoi. C'est quoi, une sorte de logorée, c'est ça?
Oui, c'est une sorte de logorée. Ce sont des lectures mal digérées, desquelles il tire seulement ce qui l'intéresse, que ça soit chez Hegel, chez Nietzsche, et il essaie de le mettre en forme, d'abord en racontant sa vie, c'est une biographie un peu fantasmée, et ensuite en donnant une sorte d'essai de programme, même si on en est encore très très loin.
Et le sous-titre, le livre était paru en France en 1933 avec ce sous-titre, un livre que tout Français doit lire car il y est question de notre mort. Dans cette bouillie verbale dont vous parlez, il y a quand même le programme, on peut lire ou comprendre ce qui va se passer après, il l'annonce.
Quoi. Oui, le vrai problème, c'est que la piètre qualité du style d'Hitler a fait que les lecteurs en France et en Europe ont pensé que ça ne pouvait pas être pris au sérieux. Or, effectivement, il y a une pensée politique qui apparaît malgré tout dedans, et au cœur de cette pensée politique, il y a l'idée que la France est l'ennemi éternel du peuple allemand. Ça a été mis en évidence, et toutes les alliances que la France pourra contracter avec d'autres pays font obstacle à l'expansion de l'Allemagne.
Alors quand Hitler sort de prison, dans quel état il va trouver l'Allemagne ?
Alors, très curieusement, l'Allemagne, en fait, s'est redressée. Parce que, en 1924, le Reichsmark a été créé, il est indexé sur l'or, et puis un nouveau chancelier qui s'appelle Stresemann est au pouvoir, très compétent. Il fait rentrer l'Allemagne à la Société des Nations en 1926, et la République de Weimar, après avoir été en sursis, s'offre une sorte de sursaut, j'allais dire, avant de se suicider. C'est une période faste pour l'Allemagne, la productivité revient, c'est une époque faste également au plan de la création artistique. C'est l'époque de Fritz Lang, de Bertolt Brecht, de quantité d'artistes, de Murnau, du peintre Otto Dix également. Et donc, le parti nazi, en fait, ne ressemble plus du tout à ce qu'il était avant le passage d'Hitler en prison. Et Hitler doit rebâtir ce parti avec les moyens du bord.
Et du coup, il se présente aux élections, mais comme souvent, quand ça va bien dans un pays, l'extrême droite, elle ne fait pas beaucoup de voix. C'est quoi le score du parti d'Hitler en 28 ?
En 1928, il fait seulement 2,6%. Il a 12 députés malgré tout, parce qu'on applique dans la République de Weimar la proportionnelle intégrale. Mais il n'est qu'à 2,6%, alors que deux ans plus tard, on passe à 18,3%. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? La crise de 29 a éclaté. Et la crise de 29, dans quelle mesure concerne-t-elle l'Allemagne ? Dans la mesure où beaucoup de capitaux qui circulent en Allemagne sont des capitaux américains. Donc les États-Unis reprennent leurs capitaux et l'Allemagne se retrouve à nouveau au bord du précipice avec 6 millions de chômeurs deux ans plus tard.
Et là, la campagne électorale va permettre à Hitler de démontrer une nouvelle fois ses talents d'orateur.
Oui, Hitler s'exprime de façon tout à fait exaltée, mais ça marche très bien. Hein. Leni Riefenstahl, la cinéaste, dit même « La première fois qu'elle l'entendit à cette époque, j'ai eu l'impression très physique que la Terre s'entrouvrait devant moi comme une orange, soudain fendue par son milieu, et dont jaillirait un jet immense, et que la Terre en serait secouée dans ses fondements. »
Alors, en 1932, Hitler est donc aux portes du pouvoir. Il se présente à l'élection présidentielle contre qui ?
Il se présente contre le vieux président Hindenburg, qui est en fait un monarchiste de cœur, mais qui a accepté la présidence de la République en 1925.
Donc ça, c'est un digne représentant de l'aristocratie allemande, c'est
oui,
ça ?
Oui, et prussienne même, ouais, prussienne, c'est-à-dire ouais. Le cœur du cœur, ouais. De ce autour de quoi s'est bâtie l'hégémonie allemande. Et c'est contre lui que Hitler concourt. Évidemment, c'est une sorte de défi absolument incroyable. Et cette année 1932 va être, après celle de 1923 et du changement de tactique politique, la vraie année du grand basculement.
Pourquoi ? C'est quoi le résultat de cette présidentielle ?
La première chose, c'est que Hitler perd, évidemment, contre Hindenburg, on pouvait quand même s'y attendre, mais il perd avec presque 37% des suffrages. En fait, ça fait de lui le deuxième parti d'Allemagne directement derrière le parti social-démocrate. Mmh. Et donc ce score est absolument étonnant. Et au mois de juillet, ce score monte encore à 37,3, 320 sièges au Reichstag. C'est vraiment une victoire très considérable pour le parti d'Hitler.
Donc on imagine qu'Hindenburg doit faire d'Hitler son chancelier. Et pourtant, il va refuser. Pourquoi ?
Hitler est méprisé en fait par Hindenburg. Pour Hindenburg, Hitler, c'est un caporal bohémien. Et il est hors de question de lui laisser les commandes. Et alors, Hitler est absolument furieux parce que c'est soit le gouvernement, c'est-à-dire le poste de chancelier, soit rien du tout. Hindenburg est évidemment très ennuyé. Dans la foulée, Papen convoque de nouvelles élections. Le NSDAP, le parti d'Hitler, perd quelques sièges. On arrive au mois de décembre. Papen et le chancelier est remplacé par Schleicher, qui commence à s'allier avec des ennemis d'Hitler. On se demande vraiment comment tout cela va finir.
Il y a une situation de blocage, en fait.
Il y a une situation de blocage, et le parti nazi semble vraiment décroître. Et puis, un retournement absolument fabuleux. On est début janvier 1933. Papen a été évincé de la chancellerie, mais il va permettre le retour d'Hitler aux affaires. Il négocie tous les deux. Il lui permet d'obtenir l'aide des banquiers allemands. Et tout ça remet à flot Hitler auprès de Hindenburg. De façon vraiment à le mettre en position de lui forcer la main pour qu'il accède définitivement à la chancellerie.
Et Adolf Hitler est chancelier, il va consolider son pouvoir par la violence en se débarrassant des SA, les sections d'assaut, lors de la nuit des longs couteaux que l'on a raconté tout à l'heure. La boucle est bouclée. Merci beaucoup Geoffroy Caillé.
Merci.
Le Figaro
Merci.
Histoire est en kiosque, c'est en partenariat avec RTL. À bientôt au micro de la curiosité.
Vous écoutez RTL.